hasard. Y'a sûrement une sorte de destin pour que mes choix aléatoires la ramènent toujours sur mon chemin. Elle m'aperçoit qu'il est trop tard. Elle m'envoie déjà la main. Je la salue un peu en retard. Et dans mes yeux, elle voit très bien qu'elle me fait encore fondre dans sa robe jaune. Dans sa robe jaune. Il suffit que d'une seconde pour retomber amoureux. Un peu comme la pluie qui retombe pour faire des flaques dans mes yeux. Pour qu'elle y saute sans réfléchir, comme si la vie était un jeu. Moi je n'ai plus le goût de rire, j'ai plutôt envie d'être heureux. Je la laisse partir dans sa robe jaune. Dans sa robe jaune.
Au bout du pied.
Tire la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Vous écoutez Cheese 94.3 FM à Québec.
De la réveillance and child. Boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité. C'est comme toujours Guillaume Bédard qui est avec vous au micro en ce mercredi midi du 12 janvier 2022. Et j'ai la chance, le plaisir et l'incroyable privilège d'être en compagnie d'un bon ami, un ami de longue date, Charles-Étienne Ostigui, qui vient de commencer sa maîtrise bidiplômante en propriété intellectuelle.
C'est exact.
Voilà, un petit nerd de droit comme on les aime. Merci beaucoup, Charles-Étienne, d'avoir accepté d'être avec moi au micro.
Ben, ça fait absolument plaisir. C'est la première fois que j'ai su le campus. Puis écoute, c'est grand, c'est beau, puis crime pof qui fait frette.
Oui, une excellente description de l'Université Laval en hiver. Donc voilà, ça se passe quand même bien aujourd'hui comme première journée à l'université pour toi, parce qu'on a une journée remplie d'actualité aujourd'hui. C'est sûr, le gros dossier du jour, on va parler de COVID-19, mais plus spécifiquement d'une proposition qui a été faite par le gouvernement québécois, par le premier ministre du Québec lui-même en personne, une petite bombe qu'il a lâchée en pleine conférence de presse. On ne parle pas d'un pet, mais bien plutôt d'une proposition de taxer les personnes non vaccinées. On va en discuter en long, en large, en travers, et également la relation de tout ça avec la démission du docteur Horacio Arruda. On va pas nourrir les théories du complot, mais certainement qu'on va aller leur fouiller un petit peu. On va parler également un petit peu de politique municipale, que ce soit à Longueuil avec les serres de Virginie, à Montréal avec la situation de l'itinérance, et ou même à Québec, parce que on a des nouvelles du projet de troisième lien. Donc on va vous en parler un petit peu. Les habitués de l'émission savent que ça fait partie de mes petits dadas. On va également passer un bon moment sur la scène internationale. On a deux gros dossiers en international aujourd'hui. On a la potentielle démission de Boris Johnson due à l'affaire du party, du Garden Party. Donc, c'est assez loufoque comme histoire, mais on va vous raconter tout ça. Mais dans un ton un petit peu plus sérieux, il y a également une potentialité de guerre en Ukraine qui se développe, des nuages noirs à l'horizon. Justin Trudeau a appelé le président ukrainien plus tôt dans la journée. Donc, on vous parle de tout ça et bien plus à Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3. Mais avant toute chose, on va commencer comme il se doit en chanson et en musique. On va aller écouter le petit Béliveau pour sa chanson Income Tax et on vous revient tout de suite après avec vos actualités coronavirales.
Un autre gros sale sur la job. Papa gouvernement ou un monarque dans son corps. Souvent je fais les affaires last minute. Ma point mes income tax. Ça, ça m'excite. Pis ça fait chaque semaine que je les ai filés. Check ma mailbox au moins 4 fois every day. Oh man, quoi c'est que c'était l'étiquette qui ferait d'arriver. Ferait d'avoir mon income tax return. Tonight the party never ends. Ferait d'avoir mon income tax return. Tonight we gonna watch it burn. Ferait d'avoir mon income tax return. Tonight the city never. Je prends mon phone pis je colle tous mes frais. Je dis que tu sois au party jusqu'au lendemain. Pis point d'avouri sur les snacks ou la bouse. À cause mes poches sont pleines and I'm a blow a few. Va blow et fréguin 200 pièces à Walmart.
Va blow et fréguin 200 pièces à Walmart.
Va blow et fréguin 40 pièces au Taco Bell.
Va blow et fréguin 40 pièces au Taco Bell.
Va remplir ma carte de fréguin Supreme Gas.
Va remplir ma carte de fréguin Supreme Gas.
Va blow et fréguin 300 pièces au Liquor Store.
Va blow et fréguin 300 pièces au Liquor Store.
Walmart.
Rebonjour et rebienvenue à tous et à toutes. Vous êtes toujours à l'écoute d'Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3. C'est Guillaume Bédard qui est avec vous au micro en ce mercredi 12 janvier 2022 en compagnie de Charles-Étienne Ostigui. Et on va plonger directement dans le vif du sujet. On va s'en aller en actualité coronavirale. Charles-Étienne, tu as pour nous les chiffres du jour.
Oui, alors aujourd'hui, ben c'est il y a quand même un petit début, peut-être, de bonnes nouvelles. Bon, je vais y aller avec les chiffres directement. Là. On parle de 52 décès, 135 hospitalisations additionnelles. On parle de plus de 8000 cas, 8351 qui ont été recensés. Là. Mais bon, ces chiffres-là, on s'entend avec les nouvelles restrictions par rapport aux tests PCR.
Oui, effectivement, on rappelle à nos auditeurs, nos auditrices que c'est 8300 cas qui ont été recensés, mais ça, c'est uniquement parmi le personnel prioritaire. On a un manque de tests. Mm-hmm. Donc, la plupart des gens qui sont testés positifs au Québec, ce sont des personnes qui testent positifs avec les petits tests rapides et qui ne se rendent jamais jusqu'aux tests officiels et qui donc ne sont pas comptabilisés dans les données du gouvernement.
Et donc, la fiabilité n'est pas aussi précise que celle des PCR. Ça fait quand même qu'au total, on voit une baisse de 20% sur une base hebdomadaire du nombre de cas de COVID-19. Donc, ça fait à peu près une semaine, justement, que la mesure en matière de tests PCR a été mise en place. On voit l'effet que ça a là, sur les statistiques officielles. Mais dans ce que je peux appeler une bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de sorties d'hôpitaux. Donc, les urgences commencent à... Bon, naturellement, il y a encore énormément d'entrées et ça ne fait que monter. Mais les sorties commencent à arriver, elles aussi. Donc, on est peut-être en voie d'arriver à ce qu'on pourrait appeler un plateau. Puis même dans les autres bonnes nouvelles, il y a l'EMA là, qui a mentionné récemment que l'Omicron pourrait peut-être faire en sorte que la pandémie devienne une endémie, que la COVID-19 devienne endémique. Fait que là, aujourd'hui, je sais pas pour toi, Guillaume, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a... Il y a un peu de lumière. Là. Après les deux semaines, le temps des fêtes qui a été assez sombre, enfin, on a quelque chose d'intéressant.
Oui, je trouve ça bien que tu sois capable de voir un petit peu de lumière là-dedans, vraiment. J'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire exactement la différence entre pandémique et endémique? Comment est-ce qu'on peut qualifier peut-être la COVID-19 d'endémique avec le variant Omicron?
Oui, mais en fait, compte tenu qu'il y aura, selon certaines études, la moitié de la population européenne aura probablement contracté le variant Omicron d'ici le mois de mars, ce qui risque probablement d'être la même situation au Canada, puis même qu'il y a certains biologistes qui pensaient que la proportion allait être plus élevée. Ce qui signifie que non seulement on a une grosse proportion de gens vaccinés et une grande proportion de personnes qui l'ont attrapé, la COVID-19. Donc, ensuite, c'est un peu difficile de la réattraper et il y a des chances qu'au lieu d'être une maladie aussi importante qu'elle est actuellement, donc le terme pandémie, qui fait en sorte que nos hôpitaux sont engorgés, peut-être que le variant Omicron pourrait devenir quelque chose de beaucoup moins menaçant, voire ressembler un peu plus à un rhume. On entend déjà des articles sortir là, ces dernières semaines disant, si vous avez des symptômes d'un rhume, peut-être qu'il s'agit de la COVID-19. Donc déjà, il y a certaines personnes pour qui les symptômes paraissent un peu amoindris. Donc il y a certains épidémiologistes, crime pas, fait ce mot-là, difficile à prononcer.
Oui, on donne tous nos respects aux politiciens qui doivent le dire plusieurs fois par jour.
Eh batin, déjà CHSLD, c'est assez difficile, puis on en reparlera tantôt. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a des bonnes chances qu'au mois d'avril, au mois de mai, on parle plus nécessairement de... Ben, encore là, je dis des dates, là, mais je vais pas donner de date, je vais pas trop donner d'espoir. Là. Mais il y a des bonnes chances que dans les prochains mois, on parle plutôt d'une situation endémique, que vraiment le Omicron et COVID-19 soient omniprésents, mais qu'ils ne soient pas aussi importants et mortels qu'ils le sont actuellement. Ce qui est des bonnes nouvelles.
Ce qui est des bonnes nouvelles, mais ce qui est un des multiples scénarios possibles, on sait que présentement, on va s'accrocher à cet espoir-là parce qu'on est au moment dans l'histoire de la pandémie au Québec où il y a le plus de personnes qui sont hospitalisées, où est-ce qu'il y a le plus de personnes qui meurent à chaque jour. Ouais. On sait que on a des taux de délestage niveau 4 dans beaucoup, beaucoup de régions au Québec. Ça n'a pas encore touché la capitale nationale, mais ça touche Chaudière-Appalaches, juste de l'autre bord du fleuve. Ouais. Donc, c'est assez intense et même ce délestage-là, niveau 4, n'est pas suffisant à certains endroits. On se souvient que dans le CI3S de la Montérégie-Est, il y a un taux d'occupation de 191% des lits en soins, des lits COVID, même après délestage de niveau 4. C'était les statistiques qui avaient été rapportées par Radio-Canada hier. Donc oui, ça varie un peu, mais le point, c'est avoir au-dessus de deux fois le nombre de cas de ta capacité maximale, ça va pas très bien. Donc, on va quand même se raccrocher à cet espoir-là.
Ouais.
On va passer à une autre annonce de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui annonce que ce n'est pas viable de combattre la pandémie à coup de doses de rappel sur le long terme. Donc, c'est une annonce qui a été faite par l'Organisation mondiale de la santé, relayée par l'agence France-Presse. Donc, ce qui nous explique essentiellement, c'est que oui, ça permet présentement de réduire les risques pour les personnes, pour les individus, mais si on regarde sur le long terme, pourquoi est-ce qu'il y a des nouveaux variants qui continuent à se créer? C'est parce qu'il y a encore des endroits dans le monde où la couverture vaccinale, elle est très, très faible. On parle d'une quarantaine de pays où la couverture vaccinale est en bas de 10 % de la population. On se rappelle qu'au Québec, 10 % de la population, c'est la population non vaccinée. Donc, les proportions sont complètement inversées. On a une centaine de pays. Donc, en fait, un peu moins d'une centaine de pays, à peu près 40 % des pays représentés à l'ONU qui ont moins de 40 % de vaccinés. Et c'est ça qui est le plus gros problème présentement au monde, c'est parce que tant et aussi longtemps que la couverture vaccinale mondiale ne sera pas à 70 % selon l'Organisation mondiale de la santé, il va pouvoir continuer à se développer des nouveaux variants. Et c'est ça le gros problème. Et donc, continuer à faire des doses de rappel, ben, ça fait juste prendre les doses de vaccins et les utiliser ailleurs que là où est-ce qu'elles pourraient être potentiellement utilisées à leur plein potentiel. Mais c'est sûr que dire ça, c'est plus difficile à expliquer justement aux urgentologues du CI3S de la Montérégie-Est qui ont leur hôpital complètement bondé, mais on comprend quand même les motivations de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est vrai qu'Omicron, où est-ce qu'il s'est développé? Il s'est développé dans les quartiers pauvres, dans les quartiers défavorisés de l'Afrique du Sud. C'est là qu'on l'a détecté pour la première fois. Pourquoi? Parce que à cause de différents facteurs socio-économiques, ces personnes-là sont plus à risque, ces personnes-là ont plus de risques de contracter la maladie et également de la faire évoluer juste à cause de la proximité du nombre de personnes qui sont là présentement. On va continuer, par contre, on reste en santé, parce que on a eu une bonne nouvelle de la part du Twitter de Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec, qui nous annonce que les prises de rendez-vous pour la première dose de vaccin contre la COVID-19 sont encore en hausse au Québec. Ce n'est pas seulement les premières doses chez les enfants de 5 à 11 ans. On sait que cette population-là a en moyenne 57 % de vaccination. C'est sûr que ça, c'est très, très disparate à travers le Québec. Même sur l'île de Montréal, par exemple, on parle de 62 % de vaccination dans le quartier Rosemont et dans le quartier Saint-Léonard, qui est pas très loin de là, mais qui est beaucoup plus multiculturel, qui est beaucoup plus défavorisé également. On parle d'un taux de vaccination de 26 % chez les 5 à 11 ans. Charles-Étienne, toi qui es plus familier un petit peu avec la réalité montréalaise, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces variations-là?
Je me rappelle au début de la pandémie, il y avait quand même beaucoup de quartiers la santé publique devait communiquer son message en plusieurs langues, puisque vraiment, il y a énormément de communautés issues de tout plein d'endroits dans le monde qui doivent recevoir le même message, et des communautés qui sont peut-être un peu plus fermées à l'idée d'être vaccinées pour des raisons culturelles, pour des raisons parfois simplement linguistiques. C'est difficile d'avoir ces informations-là. Donc, dans Saint-Michel, c'était particulièrement difficile, dans Parc Extension, Saint-Léonard aussi, Montréal-Nord, si je ne m'abuse, j'ai vu les statistiques, étaient quand même assez basses. C'est surtout les quartiers, on le remarque, où c'est des personnes qui sont défavorisées et qui ont pas nécessairement l'anglais ou le français comme première langue. Donc le message de santé publique se rend beaucoup plus difficilement à ces populations-là.
Oui, donc on va voir comment est-ce que ça va se passer. Est-ce que justement on va être capable de donner plus d'attention, de donner plus de doses de vaccins, de convaincre le plus de gens possible à ces populations-là Il y a une solution qui a été avancée par le gouvernement Legault. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on va continuer à faire le tour de nos sujets un petit peu plus variés en santé avant d'aller sur le cœur de cette contribution santé. On a la vaccination qui est accessible à partir d'aujourd'hui aux Québécois de 35 ans et plus. Donc, tous ceux et celles qui ont 35 ans et plus peuvent aller sur Clic Santé se faire vacciner. Écoutez, il y a un site de vaccination ici même à l'Université Laval, au pavillon des Jardins, donc juste au-dessus de nos têtes ici à Chiz 94.3. Et ça continue à rouler. On voit des gens qui vont, on ne voit plus seulement des vieilles personnes, de nos aînés, ni les plus jeunes, les petits bambins pour aller chercher leur première dose ou leur troisième dose, mais vraiment plein de gens qui vont aller chercher leur dose de rappel. Et on répète que contre Omicron, c'est une protection qui est valable, c'est une protection qui est efficace. On parle d'une protection efficace à environ 70%, beaucoup moins pour seulement deux doses. Donc, on espère qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont répondre à cet appel. On a également Justin Trudeau qui va faire une annonce cet après-midi par rapport à la COVID-19 pour faire le point sur la situation. Donc, peut-être qu'il va y avoir d'autres mesures qui vont être annoncées par le fédéral cet après-midi. On s'attend probablement à avoir des annonces concernant les test rapide, la distribution de vaccins, puisque la ministre fédérale des infrastructures, communément appelée la ministre des vaccins, va être présente à cette conférence de presse en plus de Justin Trudeau et du ministre de la Santé et député de Québec, Jean-Yves Duclos. On va prendre une petite pause musicale et on vous revient tout de suite après avec avec la grosse nouvelle du jour. C'est vraiment là qu'on veut s'en aller. C'est le cœur de notre émission. La contribution santé. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de faire payer les personnes non vaccinées pour l'achalandage dans les hôpitaux? On va aller écouter ta demande spéciale, Charles-Étienne. On va aller écouter La vie à temps pas de Valence et on vous revient tout de suite après. Vous écoutez Un fort dans le midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3. l'écoute d'un phare dans le midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3 avec Guillaume Bédard et Charles-Étienne Ostigui. On s'en va parler de la contribution santé, une proposition de François Legault pour faire payer les adultes non vaccinés. Essentiellement, on va commencer par un petit peu de contexte. Avant-hier, lundi en après-midi, le docteur Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé, a remis sa démission uniquement en tant que directeur national de la santé publique. Il reste sous-ministre de la Santé. Et monsieur le premier ministre a décidé de faire une conférence de presse pour expliquer son départ le lendemain à 13h. Jusque-là, on s'entend, tout va bien, tout est ordinaire, tout est calme. Oui, plus ou moins, mais quand même. Et là, durant cette conférence de presse, après avoir commencé par remercier le docteur Horacio Arruda, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé en compagnie du nouveau directeur national de la santé publique par intérim, M. Luc Boileau, si je ne me trompe pas, qu'il y aurait une nouvelle taxe, essentiellement, qu'il appelait la contribution santé, qui serait imposée à tous les adultes non vaccinés d'ici la fin de février. Donc, toutes les personnes non vaccinées seraient obligées de payer pour essayer de compenser les coûts engendrés par la vague Omicron, par la cinquième vague de COVID-19, qui, comme on le répète, cause des engorgements massifs, des délestages incroyables, du jamais vu littéralement dans les hôpitaux québécois. Cette contribution santé-là, plusieurs pensent que c'est une distraction de la démission de M. Arruda parce que effectivement c'est une bonne bombe à lâcher en conférence de presse. Mais c'est surtout une décision qui ne fait pas l'unanimité, que ce soit au niveau des spécialistes en immunologie, que ce soit au niveau des spécialistes en éthique ou même au niveau des économistes et même au niveau juridique. Charles-Étienne, toi, t'es un petit peu plus calé en droit que moi, considérant que t'as la maîtrise en droit, on espère. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi les enjeux juridiques? Est-ce que M. Legault a même le droit d'imposer cette taxe-là?
Ouais, je veux pas m'immiscer puis dire exactement ce que je pense sur la question compte tenu que je suis pas un spécialiste en droit de la santé. Ceci dit, un des grands principes dans le Code civil québécois et dans notre droit, notre charte québécoise, c'est l'inviolabilité du corps humain en ce que tout le monde peut décider ce qu'on va faire avec son corps. Certes, la loi sur la santé publique donne le pouvoir au gouvernement québécois de mandater une vaccination obligatoire, mais ça va souvent être en dernier recours ou pour dans des situations où on va parler de la vaccination obligatoire en matière d'éducation. Donc, un enfant pourra peut-être pas accéder à l'éducation dans certains pays. Je pense pas que le Québec ce soit le cas si la personne n'est pas vaccinée.
Oui, on a un petit carnet de vaccination pour la polio, pour ce genre de choses-là qui existe au Québec. Le petit truc avec un avion, là?
Ben oui.
Voilà, fait que oui, au Québec, ça existe. Ça existe. On a une vaccination obligatoire pour rougeole, rubéole, oreillon, polio.
Donc, la mesure est mise en place. Et c'est probablement qu'il y a eu un test juridique qui a été mis en place. Essentiellement, c'est à savoir, est-ce que, en fonction des objectifs du gouvernement, parce que clairement, le gouvernement va atteindre une liberté fondamentale qui est l'inviolabilité du corps humain, le droit à la santé. Et dans ce cas-ci, est-ce que, pour atteindre son objectif, le gouvernement pourrait avoir une mesure qui est peut-être moins attentatoire ou est-ce que cette mesure-là, c'est en quelque sorte la plus efficace pour obtenir l'objectif en question? C'est là que le débat se trouve parce que, comme tu l'as mentionné, les économistes qui mentionnent que c'est peut-être pas le meilleur des incitatifs. Il y a des éthiciens qui mentionnent à quel point on confronte les personnes non vaccinées à un choix presque impossible. Déjà qu'ils peuvent plus s'acheter de potes.
Ils peuvent se le faire livrer chez eux, par contre.
Ah, ça, par contre, dans la liste des mesures peu attentatoires, la SAQ, la SQDC, je pense que c'est peut-être pas si majeur. Enfin, je vais pas divaguer, là. Mais c'est à savoir si justement imposer une amende aussi colossale, c'est extrêmement attentatoire. Je donnais un comparatif côté français pour ce qui, les gens qui voulaient se faire tester pour avoir un test PCR et ainsi obtenir leur passe vaccinal, ou plutôt à ce moment-là, le passe sanitaire. Ben, il fallait qu'elle paye si elle n'était pas vaccinée, mais c'était gratuit si elle l'était. Donc ça, ça pouvait quand même être un certain incitatif, parce que si, par exemple, je suis un homme d'affaires, il faut que je sorte deux ou trois fois par semaine, puis il faut que je paye 45 euros pour avoir mon passe sanitaire, ben là, à un moment donné, je me dis, bon, ben, j'allais me faire vacciner, c'est plus simple de même. Puis c'est peut-être pas nécessairement tentatoire parce que le coût est pas extrêmement élevé. Par contre, si on parle d'une contribution financière qu'on va atteindre des milliers de dollars, le débat est à mon humble avis tout autre, là.
Oui, effectivement. Et c'est essentiellement ce que s'est écrié le député de Rosemont, député de Québec solidaire, Vincent Marissal, qui a dit que le gouvernement ne pense pas aux plus démunis dans cette mesure. C'est une des critiques qui sont relevées parce que François Legault a dit que 50-100 $, ce n'est pas beaucoup. Mm-hmm. Donc, alors que pour Vincent Marissal, il dit, ben, dans ce 10% de non-vaccinés, on a qui? On a des familles immigrantes, on a des sans-abri, on a des sans-papiers, on a des personnes en situation particulièrement précaire. Et pour ces personnes-là, 100 $, ça peut faire une bonne différence quand même. Les familles qui vivent de chèque en chèque, qui payent l'épicerie sur la carte de crédit, pour reprendre une formule plutôt utilisée, ces familles-là vont être démesurément touchées par cette mesure-là, alors qu'une famille riche qui choisit de ne pas se faire vacciner pour des raisons idéologiques, eh bien, cette famille-là n'aura aucun problème potentiellement à payer un 1000 $ d'amende, alors que si l'amende est de 1000 $ pour une famille qui habite, mettons, à 8 dans un 4,5 dans Saint-Léonard, ben ça devient un petit peu plus difficile à gérer.
Exact.
Ça fait partie des grands débats. On a également un expert, une source de la Direction régionale de la santé publique de Montréal qui a dit de manière anonyme au Devoir, par crainte de représailles, que la décision n'était, et on cite directement, pas du tout alignée sur la santé publique et qu'elle s'apparentait à, on cite encore une fois directement, des mesures coercitives qui font plus de tort que de retombées. Ça remet en question le principe de la responsabilité individuelle de la maladie, absent de notre système de santé universel. Les gens ne payent pas pour leurs soins, même si c'est leur faute s'ils fument et développent des cancers. Mm-hmm. Ça ouvre une brèche dangereuse. On est déjà la province la plus vaccinée au pays et pourtant nous avons les pires chiffres en ce qui concerne les infections et les hospitalisations. Donc la vaccination ne règle pas tout. C'est une citation de Cécile Rousseau, professeure titulaire à la Division de psychiatrie sociale et transculturelle de l'Université McGill. On a également une citation de l'épidémiologiste et chargée de cours à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, Nima Machouf, qui juge la mesure de peu utile. Elle dit « Je comprends que les gens sont frustrés, fatigués, mais ceux qui sont anti-vaccins par choix ou croyance vont le rester et ce sont les pauvres qui vont écoper. Ça ne règle rien et on ouvre une brèche dans le principe de la gratuité des soins. » Le docteur Alain de Vaudeboncoeur, même son de cloche, qui dit que c'est une porte ouverte à la privatisation de l'assurance maladie au Québec en disant, ben, ça, on commence par ça, puis on commence en fait à moduler le coût que les gens paient pour les soins de santé au Québec en fonction de leur risque. En ce moment, tout le monde paye à travers ses impôts et donc on module en fonction de la richesse, pas en fonction du risque. Si on commence à moduler en fonction du risque, qu'est-ce que ça va donner? Ben, c'est quoi un des plus grands facteurs de risque pour attraper des maladies? Ben, c'est la pauvreté, purement et simplement, parce que ça amène à des choix impossibles qui amènent à des moins bons styles de vie, qui amènent à vivre dans un environnement qui est moins sain, qui amène à plus de maladies. Et donc, on va taxer les pauvres, encore une fois. On a le même son de cloche de la part du directeur régional de la santé publique de la Gaspésie et du conseil CRI de la santé et des services sociaux de la baie James, le docteur Yves Bonnier-Vigé. Ses propos sont rapportés par Simon Carmichael du Soleil en Gaspésie, qui dit essentiellement que cette initiative-là va contre les valeurs fondamentales de la santé publique. On a également un article, une chronique de Gérald Filion, économiste bien connu au Québec, qui signe une chronique dans Radio-Canada, qui dit qu'effectivement, une taxe, un tarif ou une hausse de prix sont des moyens pour faire changer un comportement, mais que ça ne peut pas expliquer la raison pour laquelle, que ça ne peut pas être la seule raison qui va faire changer de comportement les personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Donc, il a parlé à deux experts en matière de politique de santé, les professeurs Olivier Jacques de l'Université de Montréal et Damien Contandrio-Poulos de l'Université de Victoria, et qui disent tous deux que la politique est inadéquate. La seule personne qui a dit que ça pourrait être une bonne idée, essentiellement, dans tous les experts qui ont été consultés à travers tous les différents journaux, il s'agit de l'ex-ministre de l'Industrie dans le gouvernement de Jacques Parizeau, ex-chef du Bloc québécois, qui est l'économiste Daniel Payet, qui dit que... on peut ajouter à l'impôt à payer le coût d'un lit d'hôpital, et donc on dit que c'est 5 000 $ par jour, ou en soins intensifs 10 000 $ par jour. Lui, il appelle ça un incitatif. Encore une fois, 5 000 $, 10 000 $ à rajouter aux impôts, ça va être très compliqué, particulièrement pour les familles à plus faible revenu qui payent déjà pour la plupart pas ou peu d'impôts. Donc, rajouter 5 000 ou 10 000 $ en impôts à quelqu'un qui paye peut-être 300 $ d'impôts par année parce qu'il fait moins de 25 000 $ dans son année, ça commence à être un petit peu démesuré. Ça commence à être, encore une fois, une taxe sur la pauvreté. Donc, c'est sûr que cette mesure-là, c'est plus politique que sanitaire. C'est ça qu'on comprend à travers les différentes interventions des spécialistes. Je sais pas, c'est quoi, toi, ta take là-dessus?
Ben écoute, honnêtement, moi, c'est le genre de question que au début, on en entend tellement parler, puis on a tellement envie d'en finir avec cette pandémie-là, qu'à première vue, ça peut sonner comme une bonne idée. Puis plus on creuse, plus on entend les experts en discuter. Écoute, c'est une mesure qui me paraît quand même assez absurde. Déjà, d'un point de vue pratique, l'application me paraît extrêmement complexe à mettre en place. Est-ce qu'il y a un registre des personnes non vaccinées? Est-ce qu'on y va par élimination? Comment est-ce qu'on va vraiment... Est-ce que les gens vont se déclarer vaccinés, non vaccinés dans leur prochaine déclaration d'impôt? Ça paraît quand même assez absurde à première vue. Mais en tout cas, à mon humble avis, ça me paraît être une mesure peut-être un petit peu trop intense. Puis le test des tribunaux pourrait, à mon humble avis, encore une fois... ne pas passer.
On va voir, on va voir. D'ailleurs, parlant de thèse des tribunaux, dernière nouvelle avant de passer en petite pause publicitaire. On a eu une première décision juridique. Un père non vacciné perd temporairement le droit de voir son enfant parce qu'il est anti-vax, parce qu'il a partagé du contenu complotiste sur sa page Facebook. Un père perd temporairement la garde de ses enfants. C'est ce qui a été jugé. C'est ça, c'est une perte temporaire du droit de garde parce que le juge a décidé qu'il était dans le meilleur intérêt de l'enfant qu'il vive dans une zone sanitaire plus sécuritaire pour sa santé et son bien-être physique plutôt que de voir son père durant les 2 mois que couvriront cette ordonnance temporaire. Donc, c'est vraiment juste pour 2 mois. C'est à réévaluer dans 2 mois. Est-ce que la pandémie va s'être estompée suffisamment pour que les risques soient plus moindres ou est-ce que le père va avoir décidé de s'être fait vacciner? Donc, un des deux comportements pourrait changer ce jugement, mais c'est quand même... On parle de brèche qui s'ouvre dans la loi, ça, j'ai l'impression que ça en est une première.
Oui, mais ça peut avoir un impact sur les droits des personnes non vaccinées. Puis, ceci étant dit, ce jugement-là, quand même, démontre que les tribunaux sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proches. Les tribunaux ont vraiment une vision pro-vaccinale. On a même dit que c'était de connaissance judiciaire que la vaccination est une mesure de prévention fortement encouragée, ce qui signifie que les tribunaux reconnaissent que non seulement c'est une mesure qui est encouragée, mais que ça fonctionne, parce qu'ils mentionnent justement que la protection est plus élevée pour les personnes vaccinées. Fait que d'office, les tribunaux savent, ils n'ont même pas besoin d'avoir une preuve qui est faite devant eux, que les vaccins fonctionnent. Et ça risque d'être assez difficile pour les non-vaccinés là, de faire valoir leur droit à demeurer non-vaccinés d'une manière ou d'une autre.
Voilà. Merci beaucoup pour ces explications, Judith. On va prendre une petite pause publicitaire et musicale et on vous revient tout de suite après avec des nouvelles politiques. On s'en va très proche de chez nous, en politique québécoise, dans Marie-Victorin, et également en international. On va se déplacer un petit peu plus loin dans le monde. Vous écoutez toujours Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile. Suffit d'écouter Le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Je suis allée au resto, collier de perles et talons hauts, parfum Coco Chanel dans une robe en dentelle. J'avais teint mes cheveux roux, rougi mes lèvres et mes joues. Tu n'y as vu que du feu, je jouais très bien le jeu. Je t'ai suivi à la plage, chapeau blanc vert fumé, mes colliers de coquillages dans ma plus belle robe d'été. J'avais teint mes cheveux blancs, bronzé mon corps sous les néons. J'ai l'air d'une fille de Marseille, la peau gorgée de soleil. J'ai mis ma robe à poids, me vois-tu dans tes bras? J'ai mis ma robe à poids pour danser avec toi. Je t'ai croisé dans mes cours, lunettes rondes, vieux souliers, chandail de tous les jours, dans mes jeans un peu serrés. Tu te fais prendre au jeu de ma nonchalance. Mes artifices astucieux amplifient toujours ma chance. Je te retrouve au bar, collier rouge et décolleté, dans ma belle robe noire, parfum de fleurs d'oranger. Puisqu'on n'a pas dansé, je changerai de personnage, une robe plus colorée pour une fille un peu moins sage. J'ai mis ma robe à fleurs, me vois-tu en à la mouche, je pêche et l'amour, parure de fille à pas à garçon. Je pêche et l'amour, et plus je brille, plus tu mords à l'hameçon. Je suis sortie ce matin, m'acheter un café, sans maquillage ni collier, sans canne à pêche à la main. Je t'ai croisé dans la rue, j'ai pensé m'enfuir, mais ton invitation m'a tiré un sourire. C'est en allant au resto qu'on s'est mangé des yeux, je t'ai vu aussitôt tomber amoureux. Je porte une robe à fleurs ou une robe à bois, qu'importe la couleur, je danserai avec toi. Je porte une robe à fleurs ou une robe à bois, qu'importe la couleur, j'ai accroché.
Vous êtes toujours toujours à l'antenne de Chiz 94.3 pour un fort dans le midi, votre quotidienne d'actualité. Vous êtes toujours en compagnie de Guillaume Bédard et Charles-Étienne Ostigui. On s'en va parler d'un sujet qu'on aime bien quand même. On s'en va parler de politique. On va commencer directement avec la machine à rumeurs. On la part. Parce que hier, Québec solidaire a annoncé sa candidate dans la circonscription de Marie-Victorin. Il s'agit de Shafika Vatsyanathasarma, qui est immigrante de deuxième génération du Sri Lanka, qui veut donc ravir la circonscription de Marie-Victorin, qui est une circonscription qui a été laissée vacante depuis l'élection, le couronnement, mettons, de Catherine Fournier à la mairie de Longueuil. Donc, c'est la première élection partielle qu'on va avoir au Québec depuis le début de la pandémie. En fait, depuis l'élection de Joël Boutin dans Jean Talon, ça fait de cela quand même plusieurs années, au-dessus de 2 ans.
Un autre monde.
Un autre monde complètement. Donc, Québec solidaire annonce vouloir causer la surprise avec Madame Vatsyanathasarma. On a la citation directe de M. Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire. Dans Marie-Vic, comme à la prochaine élection générale, la gestion de la pandémie va être un débat incontournable. On ne peut pas aller en élection sans parler de la tragédie sans nom qui a eu lieu dans nos CHSLD. C'est un traumatisme trop important pour la société québécoise pour que ça n'occupe pas une certaine place lors de la prochaine élection. Je constate qu'il y a de plus en plus d'insatisfaction à l'égard de la gestion de la pandémie par François Legault, mais la pandémie est là pour un moment encore et il va falloir apprendre à lutter contre ce virus tout en continuant d'avoir d'autres débats société. La pandémie et sa gestion par le gouvernement Legault sont incontournables, mais nous ne voulons pas que ce soit le seul enjeu. Donc, Québec solidaire annonce vouloir parler de transport en commun, de transition verte. Ils veulent également parler de crise du logement dans Marie-Victorin. Ce qui est essentiellement pas des mauvais choix de sujets sur lesquels apporter le débat, considérant que Marie-Victorin, c'est une circonscription qui est particulièrement urbaine, un petit peu plus défavorisée que
beaucoup
la moyenne.
Je pense que statistiquement, c'est celle avec le revenu médian le plus bas au Québec. Faudrait que je revérifie. Le 123e ou 125e sur 125.
C'est bas.
C'est quand
très,
même.
Très bas. Et c'est également une circonscription qui a voté péquiste, donc qui a voté pour le Parti québécois. Quoi? Depuis 1976, depuis l'élection de René Lévesque comme premier ministre du Québec, et ça fait très, très, très longtemps. La circonscription était indépendante depuis le départ de Catherine Fournier du Parti québécois. Est-ce que le Parti québécois va être capable de ravir Marie-Victorin avec son candidat Pierre Nantel? Ton opinion, ton analyse, ta chronique.
Moi, je pense honnêtement que le Parti québécois, malheureusement pour le Parti, n'a pas grand chance dans Marie-Victorin actuellement. La machine de Québec solidaire est extrêmement mobilisée et mes oreilles, mon feeling me dit plutôt que la machine de Catherine Fournier dans Longueuil risque probablement de s'aligner un peu plus avec Québec solidaire qu'avec le Parti québécois, compte tenu des petites tensions qu'il y a eu entre elle et le Parti là, à la
petite.
Fin. Toute petite. Donc probablement qu'elle va peut-être un peu donner un coup de pouce là, à l'équipe de Shafika pour la campagne. Ceci étant dit, il faut quand même pas sous-estimer la puissance de la CAQ sur la rive sud de Montréal. La gestion de la pandémie, peut-être que les nouvelles mesures en matière de taxation à la non-vaccination, peut-être que la démission d'Horacio Rodo, tout ça, ça a remené à une insatisfaction dans la population et la partielle sera un bon moment pour voir si ça a été le cas. Mais pour ce qui est du Parti québécois, je pense que les carottes sont cuites dans Marie-Victorin. Ce qui est paradoxal, puis on le mentionnait là, un peu hors d'onde, là, on a Pierre Nantel, un ancien fédéraliste du NPD qui se présente pour le Parti québécois. On a une ancienne bloquiste qui se présente pour QS. On est dans une espèce de monde un peu à l'envers.
Oui, et on a Martine Ouellet qui était chef du parti du Bloc québécois, qui a été ministre pour le Parti québécois, qui se présente pour elle-même, oui. Essentiellement, elle se présente pour le parti qu'elle a fondé, Climat Québec.
Ouais.
Ses chances d'élection semblent faibles.
Ouais.
On va dire ça gentiment. Mais on va voir qu'est-ce qui va se donner, et surtout avec la CAQ, parce que, je sais pas, moi j'ai l'impression, c'est mon feeling, ma boule de cristal me dit que c'est vraiment un test pour la coalition Avenir Québec, pour le parti au pouvoir, qui, dans les récents sondages, était porté au pouvoir avec des majorités de quelques quelque chose comme 90, 100 sièges, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis le deuxième mandat de Robert Bourassa. Ça fait un certain temps quand même. Donc, si la CAQ n'est pas capable de ravir Marie-Victorin, c'est désastreux pour eux, c'est désastreux pour leur image. Alors que s'ils la gagnent, ben, ils gagnent essentiellement juste un ou une députée supplémentaire, ce qui leur apporte pas grand-chose. Ouais. Donc la CAQ a peu à gagner, beaucoup à perdre. Québec solidaire a peu à perdre, beaucoup à gagner dans Marie-Victorin. Et le Parti québécois également a peu à perdre là-dedans et beaucoup à gagner. Mais si, parce qu'en fait, il y a peu à perdre parce qu'il est déjà dans les bas-fonds. S'il réussit à avoir une victoire, il va revenir dans le seuil de la pertinence pour encore quelques années, peut-être même jusqu'aux élections, puis peut-être être capable de s'imposer comme une force aux élections. Mais si le Parti québécois perd, ben il va avoir perdu un autre bastion et la rhétorique, le narratif, pour utiliser une expression anglophone, va être vraiment de la mort du Parti québécois qui est confirmé, qui est bel et bien enterré.
Cette trame narrative, on s'entend, est quand même présente depuis 10 ans, puis actuellement avec Québec solidaire qui gruge un peu le vote de gauche souverainiste. Certes, c'est peut-être pas la même vision collectiviste, c'est peut-être un peu plus proche du multiculturalisme, mais quand même, Québec solidaire joue beaucoup dans les plateformes du Parti québécois. La CAQ joue aussi dans les plateformes du Parti québécois avec son nationalisme, la fierté qu'il essaie d'insuffler, les questions identitaires qu'il va jongler. Puis, ben, le Parti conservateur du Québec aussi joue dans les palates-bandes du Parti québécois, puisque dans les derniers mois, le Parti québécois a joué beaucoup sur la notion de droits fondamentaux et tentait peut-être de calmer les personnes un peu crinquées sur la notion de liberté. Mais là, le Parti conservateur, lui, ben, il crinque en quelque sorte cette liberté à 11, puis il invite toutes ces personnes-là qui ont vraiment à cœur la notion de liberté fondamentale et, bon, les visions un peu distordues que cela implique, là. Donc, le PQ, j'ai l'impression qu'il est un peu un endroit... il est un peu dans un cul-de-sac. Il n'y a pas vraiment de direction dans laquelle il peut aller pour se démarquer de la compétition. Et s'il remporte Marie-Victorin, comme tu le mentionnes, oui, on retrouve la crédibilité, mais une défaite dans Marie-Victorin, ça pourrait... je pense qu'on l'a entendu mille fois, le fameux coup de grâce, toutes les élections qui se sont produites, on a vu les chiffres baisser, mais peut-être qu'une défaite dans Marie-Victorin, ça pourrait mener à la seule réélection de Pascal Bérubé dans Matane Matapédia, donc un parti avec un seul député.
Peut-être deux avec, mettons, j'irais pour Jonquière.
J'étais déjà serré, Jonquière. Même si Sylvain Gaudreau est un excellent député, c'est une excellente tête. D'ailleurs, allez lire son livre, son plus récent, dont le titre m'échappe malheureusement. Ça vaut la peine. Ceci étant dit, c'était très serré en 2018. Je vois pas comment en 2022 Sylvain pourrait tenter de sauver son siège. Puis en plus, il a perdu une course à la chefferie. Ça va quand même affaiblir en quelque sorte la vue de la population locale sur la présence d'un député. Malheureusement, je dis ça vraiment d'un point de vue réel politique là, et non pas d'un point de vue... C'est triste de dire ça pour un politicien que j'adore.
Bon, on va terminer là notre petite machine à rumeurs, nos boules de cristal. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas encore. On ne sait toujours pas la date de déclenchement de l'élection. On sait, par contre, que le gouvernement Legault avait 6 mois pour le faire en date des élections du 7 novembre dernier. Donc, il a encore jusqu'au 7 avril pour déclencher les élections. Cette élection partielle, j'imagine qu'il va le faire à un moment opportun pour tenter de attirer l'attention ailleurs. On va se déplacer plus proche de chez nous, à Québec. Le tunnel Québec-Lévis est à la limite du réalisable, selon l'ingénieur Bruno Massicotte, qui est l'ingénieur qui a fait les plans pour la mouture d'un troisième lien à l'est, passant par... la pointe de l'île d'Orléans. Donc, c'est dans un article du Soleil qui est très, très, très intéressant. Je vous encourage fortement à aller le lire. Donc, dans cet article du Soleil, l'ingénieur Bruno Massicotte met en lumière plusieurs défauts du projet tel que présenté actuellement, des problèmes techniques, mais également des problèmes de sécurité et des problèmes de congestion supplémentaires qui vont être amenés par la longueur du tunnel, c'est les endroits où est-ce que ça va sortir. Donc, c'est pas les meilleurs choix qui ont été faits par le ministère des Transports du Québec, selon cet ingénieur-là. Donc, ça repart encore une fois le débat. On se souvient qu'on a trois professeurs du Centre de recherche sur la mobilité durable de l'Université Laval qui ont publié un excellent livre, Comment survivre aux controverses sur le transport à Québec, cet automne, qui parlait justement de plusieurs de ces enjeux-là, mais qui ne s'avançait pas sur des enjeux techniques. Eh bien, aujourd'hui, on a une confirmation, même techniquement, ça ne se fait pas comme projet, ce n'est pas un bon projet. Donc, si c'est pas bon politiquement, économiquement ou sociologiquement, pourquoi est-ce que ce projet existe encore?
Moi, une petite minute là-dessus, là, juste pour une parenthèse amusante. On parle d'un projet de 10 milliards de dollars. Sachez qu'au territoire du Nord-Ouest, on a construit un pont au prix de 250 millions de dollars pour désenclaver la ville de Yellowknife pendant la crue des glaces au mois d'avril, au mois de mai. C'est un pont de 1,6 km. Ça a gagné des prix d'architecture. Ça a été un gros problème logistique parce que il n'y a aucune ville pas loin de la Mackenzie pour traverser. On a construit un immense pont là-dessus, 250 millions de dollars pour sauver des coûts pour des populations autochtones reculées. Nous, on est en train de dire qu'on va payer 10 milliards collectivement pour construire un pont et plutôt un tunnel massif qui, selon toutes les études, n'apporte strictement rien, si ce n'est que peut-être une voie de contournement pour les ambulances en cas de problème et d'urgence.
Oui, et le problème avec les ambulances dans ce troisième lien, c'est que c'est un tunnel sur deux étages à trois voies chaque bord. Donc, si jamais il y a un accident, tenter de sortir de là va être à peu près impossible. Et c'est ça le grand problème de Bruno Massicotte, justement, cet ingénieur. Donc, même pour les ambulances, c'est pas bon.
Une autre tuile, enfin.
Une autre tuile. On va terminer cette émission en se déplaçant à l'international. On vous l'avait promis, on va le faire. On va parler rapidement. Jean-Étienne, tu as fouillé un petit peu le dossier. Si tu pouvais nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec Boris Johnson et pourquoi est-ce qu'il est dans l'eau chaude?
C'est digne de Boris Johnson, cette histoire-là. Essentiellement, le Guardian, au début du mois de décembre, alors que Boris Johnson était déjà dans l'eau chaude, essentiellement, il y a eu des élections partielles que son parti a perdues. Le ministre du Brexit a claqué la porte sous de vives tensions au sein du Parti conservateur britannique. Déjà, ça allait mal, mais le Guardian a révélé qu'au pic de la première vague, au mois de mai, Boris Johnson et plusieurs membres de son équipe politique se seraient rassemblés pour faire une espèce de fête dans un jardin on appelle le Number 10 Lockdown Party, là, ou le Garden Party, si jamais vous voulez faire vos recherches sur le sujet. Et on parle...
Faites vos recherches.
On parle d'une vingtaine de personnes qui mangeaient du fromage, des bons vins alors que la population était confinée et qu'on parlait d'une situation de crise. Donc, pendant des semaines, Boris Johnson réfutait jusqu'à ce que des photos soient révélées de l'événement et qu'il soit malheureusement obligé d'admettre son tort. Ce à quoi, d'ailleurs, il a à moitié admis son tort en disant qu'il n'était pas au courant que c'était une fête, qu'il croyait que c'était un événement professionnel pour remercier les travailleurs de la santé, qu'il croyait être là seulement 25 minutes, ce qui ne s'est pas avéré. Donc ça, c'est tout plein de problèmes qui se sont accumulés. Et finalement, Boris Johnson a dû tout simplement avouer que, crime pof, au mois de mai 2020, j'ai fait le party avec des collègues, tout simplement. Et actuellement, ça fait pas mal le scandale dans la presse britannique. Vraiment, c'est un des scandales qui semble ne pas laisser aller Boris Johnson et qui commence à s'accumuler. Donc, l'homme Teflon numéro 1 étant Donald Trump pendant sa présidence, l'homme Teflon numéro 2 semble malheureusement, ou plutôt, je sais pas, heureusement, malheureusement, là, je vais pas prendre
malheureusement pour lui.
Malheureusement pour lui, voilà, ça c'est bien dit. Semble avoir un problème et ça va être assez difficile pour lui là, de se défaire de toute cette affaire. Vraiment, là, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il se fait prendre à contourner en quelque sorte les mesures sanitaires pour son bien-être personnel. On parle pas tout simplement, même pas pour des mesures ou des rencontres officielles. C'est vraiment juste pour lui-même. Donc, compte tenu qu'il demande d'énormes sacrifices à la population et que lui-même semble en faire fi régulièrement, ça crée énormément de grogne, même dans les rangs conservateurs. conservateur.
Bon, donc on va voir qu'est-ce qui va se passer exactement avec M. Johnson. Toujours en Europe, c'est une crise qui ne désescalade pas entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine qui veut se joindre à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui est l'espèce de super alliance dont la pointe de lance est les États-Unis. La Russie refuse toute expansion de l'OTAN et comme réponse à ce que la Russie perçoit comme étant une augmentation de la présence de l'OTAN dans sa sphère d'influence, elle a décidé d'amasser 100 000 troupes sur la frontière ukrainienne. Il y a eu des discussions plus tôt cette semaine entre la Russie et les États-Unis en Suisse. Ces discussions ont résulté dans ce qu'on a appelé communément un dialogue de sourds. Donc, la Russie n'a pas agréé à aucune demande, mais ne les a pas refusées. C'est le plus positif que les États-Unis ont été capables de tirer sur le sujet. Mmh. Aujourd'hui, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'est entretenu avec le président ukrainien à propos de la Russie. Les deux ont discuté, entre autres, de potentielles sanctions économiques de l'OTAN envers la Russie. L'Union européenne ne s'est pas engagée à quoi que ce soit. On se rappelle que la Russie fournit la plupart du pétrole et du gaz naturel que l'Union européenne consomme. Donc, c'est sûr que ces tensions-là qui commencent à escalader, ça fait très peur présentement. On ne veut pas avoir une guerre chaude. On ne veut pas avoir non plus une invasion de l'Ukraine par la Russie. Mm-hmm. Ce serait assez dommage, mettons.
Oui, en effet.
On va, sur cette note un petit peu aigre-douce, ouais, on va terminer notre émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Charles.
Ça a été un plaisir absolu.
Et merci à vous, cher public, d'être là midi après midi, jour après jour. Je rappelle qu'on est là tous les jours en semaine de midi. C'était Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.